Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et aujourd'hui on a changé de studio, figurez-vous, parce qu'on met à neuf, l'ancien. Donc, pour ceux qui nous écoutent, là tout de suite, je suis à une place que de nombreux auditeurs doivent m'envier. Je suis au cœur de la machine, au plus près de l'éminence grise de cette émission. Sur les genoux de Maxime Dupuis, référence du journalisme au 21e siècle. Jamais je n'avais côtoyé d'aussi près ce qui ressemble à la perfection faite homme. Du moins, c'est ce que je croyais. La vue d'ici, elle n'est pas franchement incroyable. Forcément, je suis un peu plus près de la table, hein, parce que Max, c'est 1m58 bien tensé, alors que moi, je suis plutôt 1m93 bien élancé. Forcément, ça change. Donc d'ici, je constate qu'en fait, bah, ça vole pas bien haut. Je suis un peu déçu. Ces notes, une compilation de cop-call de mes meilleurs articles, et même pas que les meilleurs d'ailleurs. Je lis sur son coin de table en rouge écarlate, entre guillemets, ne pas oublier de dégommer Neymar. Grisou, épouse-moi. À mort la Super League, la Coupe du Monde à 89 équipes et le mercato d'hiver. Bon, finalement, il vaut mieux pas voir l'envers du décor. C'était mieux quand on était un peu plus éloigné. L'illusion fonctionnait encore. Comment ça va,
Martin? Ça va, Martin. Mais tu sais, c'est des trucs, j'ai pas besoin de les écrire, ça.
Non, c'est
je
vrai,
m'en rappelle
toujours. Tu fais quelques petits pense-bêtes quand même.
Donc, sur ça, il y a aucun problème.
Est-ce que t'as plus d'inimitié envers Neymar que d'amour envers Griezmann?
Ah, c'est une bonne question. Non, mais j'adore Griezmann.
Oui,
c'est sentiment positif. J'adore ce qu'il représente. En fait, les deux joueurs.
Ça y est, je l'ai relancé. Le mec, premier degré, il va nous reparler de sa Coupe du Monde.
Non, mais ce qui est marrant, c'est une conception du football qui est complètement différente. Voilà. Ouais. Et j'avoue être plus proche dans la conception d'un Griezmann. Voilà.
On l'a pas remarqué.
Mais surtout ce nouveau studio.
Oui.
Il y a une forme d'émotion parce que il faut savoir qu'on est à Eurosport depuis très longtemps. Et en fait, il y a 7 étages à Eurosport. On a changé d'étage, je ne sais pas combien, depuis 15 ans, on a dû changer 5 ou 6 fois d'étage. Et la place où on est là, exactement, c'est un ancien fumoir.
C'est vrai.
Qui a été transformé entre salle de montage, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un studio. Donc, je suis assez ému parce que j'étais entré une fois dans ce fumoir avec un certain VB.
J'étais resté... Que tu ne voyais pas d'ailleurs.
Ouais, on ne voyait pas, on avait parlé de minutes. Et j'étais ressorti, j'avais l'impression d'être un paquet de Marlboro ambulant.
Ah non, mais les fumoirs. Alors là, les jeunes qui nous écoutent ne savent pas ce que
dans les
rédactions.
Ouais.
Moi, j'ai commencé au Dauphiné Libéré, le fumoir du Dauphiné Libéré.
Mais c'est pas.
Comment on a pu inventer des choses pareilles quand même? Un endroit où tu fumes? Non, mais c'est pas possible.
Moi, j'avais mon prof de journalisme. Qui était vraiment. On rentrait dans son bureau, il avait la clope au bec. C'était Robert Redford et Dustin Hoffman, les hommes du président.
Ouais,
et pourtant, c'était pas en 1973.
Ouais. Et alors, petit scoop pour vous qui nous écoutez, Maxime fume de temps en temps quand même.
Ça, fallait pas le dire ça.
Pourquoi?
Les gens qui écoutent.
une fois comme ça.
En soirée, parce que Maxime, un verre de martini, une clope, et puis après tu le retrouves avec la cravate sur la tête, au milieu des démons de minuit sur la piste de danse. Voilà. Maxime est assez facilement,
Faut pas fumer, c'est pas bien. Il m'arrive une fois comme ça, de temps en temps, en soirée, d'avoir la cigarette festive, mais c'est tout.
la
cigarette festive, la normale, hein. Pas de méprise, on va avoir des gros problèmes sinon.
Non.
On est en 2022.
Exactement. On va à nouveau studio, mais toujours le même principe pour le FC Stream Team. 3 sujets, Maxime, aujourd'hui. On va parler du PSG, de l'OL et de Zizou. On débutera cette émission avec la notion de remplaçant au Paris Saint-Germain et pourquoi c'est impossible d'être remplaçant au PSG alors que Paris veut muscler son banc depuis le départ de Sarabia en recrutant soit Cherki, soit Malcolm, l'ancien bordelais. On vous expliquera pourquoi c'est impossible d'être remplaçant à Paris.
On parlera ensuite d'une équipe qui a plus de mal avec ses titulaires, l'Olympique Lyonnais, qui est dans le ventre mou du classement et qui essaye de profiter de ce mercato d'hiver pour relancer la machine, mais bah, on a bien du mal à comprendre comment la machine peut être relancée en faisant ce qui se passe actuellement à Lyon. Ce sera le deuxième sujet.
Et on terminera avec Zidane, alors que The Athletic, le site connu quand même pour la fiabilité de ses informations, nous informait hier qu'un proche du cercle Zidane, donc c'est pas Zidane lui-même,
ni un proche puisque c'est un proche du cercle,
c'est vrai, c'est un proche du cercle, nous disait qu'il y avait trois options envisagées par Zinedine Zidane pour poursuivre sa carrière sur un banc: le Real Madrid, un troisième retour au Real Madrid, la Juventus et
l'Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille. Voilà. Alors on se demandera est-ce que c'est bien sérieux d'imaginer Zizou à l'OM.
J'ai l'impression que la réponse est dans la question.
Ouais, j'ai l'impression aussi.
L'émission est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Acast, Deezer, Spotify, Apple, Podcast, etc. Vous vous abonnez, vous nous laissez des commentaires. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir les commentaires cette semaine. Puis vous mettez 5 étoiles tant qu'à faire parce que ça nous fait plaisir. Et puis ça fait remonter le podcast. Et dites-vous tout simplement, si vous nous aimez bien, que plus le podcast remonte, et ben plus... il y a d'auditeurs, et plus il y a d'auditeurs, plus on fait de podcasts. Voilà.
Si demain, j'ai rien compris, j'ai pas suivi.
Non, mais si demain il y a 90 000 auditeurs par jour, on fera un podcast tous les jours, ouais, il faut se le dire.
C'est vrai.
Parce que tout est une question de business.
Là, on en est un peu loin quand même. Mais...
un peu loin. Ouais. Alors, y a eu des... C'est déjà arrivé, oui, mais bon, c'est pas tous les jours.
Non, bah ouais.
Bon, bref. Mais c'est pas grave, on s'en fout, on est entre nous.
C'est vrai. Moi, tant que t'es là, Maxime, ça me va. Voilà, allez, on va démarrer avec le Paris Saint-Germain, et donc... cette information transfert qui est venue de nos confrères de l'équipe qui annonçait que Paris réfléchissait à enrôler Ryan Cherki cet hiver. Pourquoi ? Parce qu'il faut remplacer Pablo Sarabia qui est parti. Et donc Paris cherche à muscler son banc en attaque. On rappelle qu'il y a les trois intouchables, il y a Ekitike, mais voilà, ça manque un peu de poids offensif. Donc Paris réfléchirait à Cherki et, comme ça semble être le cas, si Lyon retient Cherki, et non pas la nuit, et ben le PSG réfléchirait à Malcolm. On s'est penché un peu sur les destins des remplaçants parisiens, ces mecs-là qui sont arrivés, comme Cherki ou Malcolm, si c'était le cas, qui sont arrivés à Paris dans la peau de remplaçants. Et force est de constater que ça n'a jamais marché, ou presque. Alors on a fait différentes, on a fait une typologie de ces joueurs-là. Donc ceux pour qui ça n'a pas marché, alors là on a un échantillon parce que c'est à peu près 99% de ceux qui ont signé à Paris, de Draxler à Wijnaldum en passant par Herrera, Bakker, Florenzi, Gay, Kerrer, Diallo, Rafinha, Icardi, Choupo-Moting, Ressé, Berchiche et aujourd'hui Soler, Ruiz, on aurait pu en rajouter quelques-uns comme même on aurait pu remonter à Krikoviak ou Guedes, ça n'a pas marché pour eux. Ceux qui ont un bilan moyen, on va dire, Bernat, Danilo Pereira et Mukiele, et ceux... et même celui, j'ai envie de dire, qui a plutôt réussi. Et là, je pense à Moise Kean. Donc, les réussites sont rares, les échecs sont nombreux. On va dire, ouais, 90% de ceux qui sont arrivés en qualité de remplaçant. Maxime, pourquoi c'est impossible d'être un remplaçant au PSG ?
Je pense qu'il y a plein de choses. Alors, dans la liste, moi, je mettrais un tout petit peu à part Mukiele, Soler, Ruiz, parce que c'est la saison actuelle et je préfère attendre. Mais n'empêche que c'est vrai que pour Soler et Ruiz, on en vient finalement à se demander le pourquoi du comment, notamment Ruiz, qui était plutôt pas mal, qui avait montré de bonnes choses. Et puis, on se dit, bon, bah, finalement, c'est peut-être pas aussi bien que ça. On aurait pu, on en a parlé aussi tout à l'heure, parler de Marquinhos, qui arrive dans la peau d'une doublure qui est là pour grandir et qui réussit globalement. Mais c'est un cas hyper isolé. J'ai fait une deuxième typologie dans la typologie, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui se sont perdus à Paris, et vraiment dans la ville, là, dans la ville de Paris, c'est-à-dire Julian Draxler, par exemple, ouais, qui lui a fini par satisfaire. Il faut se rappeler de ce qu'est Julian Draxler en 2016 avec l'équipe d'Allemagne. C'est un joueur hyper prometteur et Paris l'achète pour en faire quelque chose de bien. Il va vite se décourager. J'ai l'impression qu'il est très découragé globalement du football maintenant parce qu'on voit que le problème n'est pas qu'à Paris et qu'il s'était perdu tout simplement. Il était bien dans la ville et il n'avait pas envie d'aller beaucoup plus loin. Il y a ceux qui n'avaient pas la carte. Je pense à Choupo-Moting qui n'est pas assez prestigieux pour un club comme le PSG. On voit ce qu'il fait au Bayern, ce qui prouve que c'est pas un manchot.
Ou Guedes qui a bien...
Ou Guedes. Et il y a ceux qui ont été... J'ajouterais... Il y a les erreurs. Ressé, voilà, ça c'est de l'erreur, ça arrive. Et il y a ceux qui, pour moi, ont été ballottés et pas capables de supporter le poids de leur transfert. Je pense notamment à Kerrer. parce que je pensais que personnellement que ce serait mieux, que c'était un peu la suite d'un Marquinhos, c'est-à-dire qu'on fait venir un joueur un peu cher et on se dit on va le faire grandir. Or, il a pas réussi. En fait, on peut pas penser que le PSG se trompe à chaque fois quand même, parce que s'il se trompe à chaque fois, c'est qu'il y a vraiment vraiment un immense problème. Là où je pense que le PSG fait une erreur, parce que la liste est trop importante pour être un hasard, c'est qu'en fait le PSG est un club qui a du mal à trouver l'entre-deux. Rappelez-vous 2015-2016, la ligne d'attaquants du PSG, c'est Zlatan, Cavani, Ngenda et Augustin. C'est-à-dire qu'on se rappelez-vous à cette époque-là, il faut une doublure, on trouve pas une doublure. Et à l'époque, moi je pensais à des joueurs, j'ai bien dit, pas forcément lui, mais du type de Gamero. C'est-à-dire un type qui va sortir du banc, qui va mettre ses buts, qui est entre deux, qui ne peut pas non plus demander à jouer tout le temps, parce que derrière Zlatan et Cavani, c'est difficile, mais au moins qui est dans un entre-deux. Il ne le trouvait pas, ce joueur-là. Maintenant, finalement, quand on regarde les noms, on pourrait dire qu'il les trouve. Or, je pense que tout simplement, je développerai après t'avoir laissé la parole, je pense qu'il y a une force d'inertie trop forte avec les statuts au PSG, tout simplement. Je vais dire un mot très vite. Lundi, Pays de Cassel, PSG. C'est formidable que Mbappé marque 5 buts, mais en vrai, ce match-là, il n'a pas vraiment besoin de le jouer ou en jouer une partie. Mais simplement, il a besoin, c'est un glouton du but, il a besoin de jouer, il se fait plaisir, il met ses 5 buts. Mais en vrai, vous prenez cette situation-là, il y a 15 ans, ce match-là, il ne le joue pas ou il le joue à moitié.
Mais les trois de devant sont obsédés par leurs stats, et c'est pour ça que ce sont des grands joueurs aussi. Leurs stats, leurs chiffres, la course en ballon d'or, etc. Donc, ce qui les pousse à jouer tous les matchs. Mais de toute façon, pour moi, il y a plusieurs problèmes. C'est que, problème numéro un, c'est qu'effectivement, les titulaires ne bougent pas. Parce que, problème numéro deux, il y a un trop grand écart entre les titulaires et les remplaçants aussi. C'est-à-dire que, comme il ne faut pas faire d'ombre, ou ne pas mettre en péril le statut des titulaires, eh bien on prend des joueurs qui sont quand même très loin du niveau, alors là je parle surtout en attaque, très loin du niveau des trois de devant. Donc en fait, il y a ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'entre-deux. La deuxième chose, et ça pour moi c'est le cœur du problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence, c'est les fossés de base. C'est-à-dire qu'il y a un 11 en gros, Paris Saint-Germain, voilà. Il y a des stars qu'il faut faire jouer. Ces mecs-là, de toute façon, ils ont un statut qui est intouchable. Donc, mettez-vous à la place d'un Sarabia, d'un Draxler, qui va avoir 10 minutes en Ligue 1 contre Strasbourg, puis 10 minutes 3 semaines après contre Reims, puis 7 minutes 2 semaines après contre Ajaccio. Il sait que son statut, quoi qu'il se passe sur le terrain, quoi qu'il fasse, son statut ne bougera pas. Qu'il mette 3 buts ou qu'il fasse n'importe quoi, ça ne changera rien pour lui. Donc, finalement, c'est assez facile, comme Draxler, de profiter de son gros salaire et de se laisser couler petit à petit. Ces joueurs-là, ils ont besoin d'être challengés, ils ont besoin d'être piqués, ils ont besoin d'être managés, tout simplement. Or, au Paris Saint-Germain, c'est impossible du fait même de la construction de cet effectif-là. Et c'est là le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Prenez un mec comme Sarabia. Sarabia, je pense foncièrement que c'est un bon joueur. Le mec cartonne au Sporting l'an dernier. Il revient cette année, on se dit... Voilà, on l'a, la solution derrière les trois. Résultat, voilà, il s'enfonce. Et puis, tu doutes, t'as moins de confiance, ça boîte des joueurs capés, etc. Quand tu joues moins, quand t'as moins de confiance, tu rentres sur le terrain, c'est des mecs qui sont habitués à être titulaires, ils peuvent pas donner leur pleine mesure en 5-7 minutes. Et... Donc, voilà, pour moi, le cœur du problème, c'est que ça, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, que c'est faussé et que les dés sont pipés.
Et pourtant, on sent qu'il y a des efforts, Galtier l'a compris, on sent qu'il essaye, mais il n'y a qu'à voir, et c'est aussi l'environnement, c'est-à-dire qu'il y en a un devant qui sort, on va regarder s'il fait la tête, c'est compliqué. Regardez Guardiola, Manchester City, c'est un effectif qui n'est pas construit pareil. Alors, évidemment, il y a d'immenses stars, mais ce n'est pas le star system comme on l'entend.
Ouais, t'as 25
et
joueurs.
Il y a 25 joueurs et ça tourne, voilà, ouais. Et c'est une gestion. Et c'est vrai qu'un joueur, mettez-vous simplement la place d'un joueur comme Sarabia ou d'un autre. Vous savez que vous allez avoir besoin de jouer. Déjà, il faut vraiment être bon sur le peu de temps qu'on vous donne. Ouais. Parce que si vous vous plantez, vous savez que vous allez en prendre plein la poire et que c'est assez impitoyable.
Mais ça, à la limite, dans un grand club, à la limite, pourquoi pas.
Oui, mais là, tu sais que tu es complètement, quasiment condamné. Donc derrière, tu décroches, tout simplement. Il y a un exemple, moi, qui m'a marqué au PSG, c'était Lucas Moura. Il était jeune, il est arrivé. Dès le début, il me semble que c'est à Valence où il fait un très grand match en 8e de finale aller de Coupe d'Europe. Je crois que c'était ça.
Tu te dis qu'il y a un truc.
Mais c'est un joueur qui va grandir. On voit tout de suite qu'il n'est pas régulier, mais il est capable de grandes choses, notamment, je crois que c'est contre Marseille, son raid incroyable jusqu'au but ou presque. C'est un joueur qui a quelque chose. Le problème, c'est qu'il y a espèce de côté impitoyable à dire. Et peut-être qu'il n'est pas assez protégé aussi. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner tout de suite, être à 100% tout le temps. Des machines comme Mbappé, il n'y en a pas tous les jours. Et donc, résultat, il finit par s'en aller et faire des choses pas trop mal du côté de Tottenham, notamment. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va être beaucoup plus dur avec les remplaçants et beaucoup plus cajoler les titulaires. Moi, je suis désolé. Un joueur comme Neymar, deux, trois fois où il aurait mérité de sortir du terrain.
Ça faisait longtemps.
Mais c'est Neymar, voilà. Bah oui, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est difficile après de changer un état d'esprit et changer une manière de faire, parce que quand tu t'appelles, évidemment, Sarabia, mais même aujourd'hui, Ekitike, qu'est-ce qu'il sait ? Il sait qu'il va jouer seulement si un des trois n'est pas là.
Mais est-ce que d'ailleurs, en niveau de choix de carrière, parce qu'on peut parler de Cherki là, ouais, mais Ekitike, c'est quoi son avenir ? Qu'est-ce qui va se passer pour lui ? C'est-à-dire que oui, alors il est extrêmement bien payé, il joue au Paris Saint-Germain, donc ouais, chaque but compte double, triple ou quadruple par rapport à Reims, effectivement. Mais Ekitike, je ne sais pas s'il pourrait envisager d'arriver en sélection, pourquoi pas ? C'est un jeune plein de potentiel, se dire une carrière, voilà, elle doit mener, pourquoi pas, à sa sélection nationale, etc. Mais là, il est derrière ces trois-là. Mbappé, a priori, le projet est construit autour de lui. Donc, voilà, normalement, le pari, en tout cas, voudrait le garder. Voilà, Neymar, il a un contrat XXL. Messi, ce n'est pas vraiment le même poste. Mais bon, du coup, tu te dis quoi ? C'est pour être le second couteau ad vitam aeternam à cet âge-là. Ouais. C'est compliqué. C'est pour ça que Cherki n'a, à mon sens, aucun intérêt à aller au Paris Saint-Germain. C'est parce que tu ne progresses pas. Reprenez la liste des joueurs qu'on vous a fait.
On n'a pas parlé de Ben Arfa. Qui lui était en entre-deux.
Oui, et j'ai une bonne phrase de Ben Arfa d'ailleurs là-dessus qui disait donc en 2017, je ne revendique rien ici, donc à Paris, ni un temps de jeu, ni un poste précis, c'est juste que je veux vraiment qu'on me donne ma chance et que je sente qu'il y a vraiment une concurrence dans cette équipe. Alors lui, le problème.
Oui, c'est qu'il y a un passif.
Voilà.
Mais bon, mais voilà.
Mais malgré tout, ouais, c'est un cimetière à carrière, le Paris Saint-Germain. Alors qu'on soit bien clair. Quand on est une recrue qui vient pour faire le nombre ou être sur le banc ou titiller un peu les titulaires, dans ce cas-là, c'est un cimetière à carrière. Si on est Achraf Hakimi et qu'on donne les clés du couloir droit,
ouais,
pas de problème. Si on est Nuno Mendes et qu'on sait qu'on va miser sur nous pour le couloir gauche, il n'y a pas de problème. Quand on est Messi et Neymar, j'en parle même pas, ni Mbappé. Mais quand on est voilà, tous ceux qu'on a cités avant, c'est un cimetière à carrière. Et pour moi, le meilleur exemple, et tu l'as pris, c'est Draxler.
Et puis, on parlait de Bernat. Lui, c'est un bon exemple parce que finalement, il s'était imposé. Et finalement, il était arrivé un peu dans l'anonymat et dans la défiance. Finalement, tout le monde s'était rendu compte qu'il était plutôt bon sur son couloir. Il s'est blessé. Et puis après, c'était terminé. Donc, il y a vraiment ce côté impitoyable. Et en fait, le problème aussi, pour revenir à Ekitike, c'est que demain, si Mbappé s'en va, il ne sera pas en première ligne.
Bien sûr.
Ils iront chercher quelqu'un d'autre.
Ils iront chercher Kane. Voilà. Ils iront chercher...
En fait, ils savent chercher, mais c'est un peu leur façon de faire. Ils savent chercher du premier choix. Ça, ils savent toujours faire. Le problème, c'est que derrière, c'est plus compliqué quand vous êtes remplaçant. Et c'est vrai qu'un joueur comme Ekitike, hormis, c'est déjà beaucoup, jouer au Paris Saint-Germain dans le meilleur club de France, jouer potentiellement des grandes rencontres de Coupe d'Europe, c'est bien. Mais
profiter des blessures. C'est aussi tout.
Profiter des blessures. Et surtout, moi, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est quoi qu'il advienne, parce que c'est impossible qu'il sorte un des trois de devant.
En fait, il ne peut pas devenir une star là-bas. Mais c'est comme Nkunku. Il ne pouvait pas devenir une star là-bas. Donc, il a fallu partir pour aller voir ailleurs, grandir ailleurs, se révéler ailleurs et devenir international français ailleurs. Voilà,
et c'est dur de lutter contre les statuts. On voit que Galtier a envie de le faire, qu'il essaye.
Ils ont tous envie de le faire.
Mais finalement, on se rend compte que très vite, y a une marche arrière et c'est compliqué. C'est le prix à payer de jouer au PSG. Et quelqu'un qui signe sans référence absolue, il sait que bon, potentiellement, regarde, Ramos, lui, est devenu titulaire comme par hasard.
Ouais, alors que au niveau est-ce que Diallo aurait fait pire ou mieux, enfin tu vois, c'est voilà,
mais c'est Ramos.
Et derrière, donc tu passes de carrière Icardi, tu passes de l'Inter à Galatasaray. Alors, j'ai rien contre Galatasaray, encore ça se passe bien en ce moment Galatasaray, mais bon, voilà, c'est quand même rarement un tremplin.
T'as lu un papier sur le site,
sur évidemment, très 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 bien titré d'ailleurs.
Très bien titré par Cyril Morin.
Ouais.
Avec un intervenant de qualité.
Exactement.
On salue Youssouf. Je sais pas s'il nous écoute, mais.
Je suis pas sûr.
Oh, quoi que.
J'espère pour lui. Parce que les gens qui nous écoutent, t'as vu le sondage de l'Ipsos qui est sorti ?
Oui.
Ouais. Les gens qui nous écoutent, 80% des gens qui
sont plus
nous écoutent, sont plus intelligents et ont une plus jolie vie. Tu vois, la vie est plus belle quand on nous écoute. Donc, il aurait tort de s'en passer. D'ailleurs, faites passer le mot. Hein, si vous voulez une vie heureuse, pleine de prospérité, écoutez le FC Stream Team.
La prospérité, je sais pas s'il s'en rapproche, mais en tout cas. L'Olympique Lyonnais.
Oh là là, la transition, elle était dure là. Ouais. T'es allé la chercher loin.
Il y a un problème.
Là,
c'était pas bon là, c'est celle qu'il fallait pas faire. L'Olympique Lyonnais est au milieu d'une saison très très compliquée. Saison du changement, parce que saison du rachat par John Textor. Saison aussi du rachat sportif espéré, mais qui ne vient pas. Avec Laurent Blanc qui espérait relancer l'équipe avec le mois de repos lié à la Coupe du Monde. Or, la Coupe du Monde est passée, il a eu son mois de préparation, ça ne va pas. Le vestiaire n'est pas très content, enfin, surtout les joueurs qui ne jouent pas, ce qui est souvent le cas. Mais là, l'OL a décidé de le vider en quelque sorte. Et Martin, on a beaucoup de mal à suivre le mercato de l'OL. On a surtout l'impression que c'est un mercato cata.
Alors en fait, le tableau, il est simple. Lyon est en échec sportif. Lyon est un grand club français en échec sportif. C'est d'ailleurs celui qui, dans ce tableau de Ligue 1, après tous les matchs allés, est le plus en difficulté. 9e à combien de points, je ne sais plus, de la Ligue des Champions, 15 ou 17, 17 points du podium. Bon. Donc on se dit, normalement, n'importe quel club dans cette situation-là, si ça avait été Marseille, si ça avait été Monaco, si ça avait été donc l'Olympique Lyonnais, ou voilà, des clubs de ce standing-là, généralement profitent du mercato d'hiver pour se renforcer et doper un peu leurs ambitions, profiter de leur surface financière pour voilà, doubler ceux qui sont devant eux. Or, qu'est-ce qui se passe là ? Il se passe que Laurent Blanc nous a dit la semaine dernière que ses joueurs, les pauvres, ils étaient malheureux, qu'il avait un vestiaire qui faisait la tronche. Donc là, le mercato de l'Olympique Lyonnais, ce n'est plus une occasion de doper les ambitions, mais c'est une gigantesque thérapie de groupe. C'est-à-dire, vous êtes malheureux, bah vous pouvez vous en aller. Donc, qui s'en est allé ? Karl Toko Ekambi, que le stade a pris en grippe. Il a fini par dégommer une poubelle dans les couloirs du Groupama Stadium. Donc, il s'en est allé. Fèvre, qui ne veut plus jouer à l'Olympique Lyonnais parce que voilà, on ne lui donne pas de temps de jeu, il va s'en aller. Tété, il va s'en aller. Donc, on a une espèce comme ça d'exil. On parle aussi de Thiago Mendes. On parle de Dembélé.
Geoffrey Nadélaïde, qui devait aller à Séville.
Voilà, exactement. Potentiellement à Aouar, puisque son contrat se termine dans 6 mois. Et que si Lyon veut en tirer un petit quelque chose de l'ancien homme qui valait 60 millions d'euros, selon Jean-Michel Aulas, bah, il faut qu'il parte maintenant. Donc, voilà, on est dans un exil massif, alors qu'on devrait être dans un renforcement spectaculaire des forces lyonnaises. Donc on est dans l'exact inverse, puisque pour le moment, comme arrivé, on a qui ? On a Lovren, voilà. Comme départ, on a Toko Ekambi, mais tous ceux que je vous ai cités précédemment risquent de quitter le navire très vite, notamment TTFM. Et dans les arrivées possibles, on a Wilson Isidore.
Le citadin.
Wilson Isidore, qui est donc censé remplacer Tété et Toko Ekambi, parce que là, on va parler du sportif aussi. Tété et Toko Ekambi, deuxième et troisième meilleur buteur de l'Olympique lyonnais. Donc je veux bien que ce soit Toko Ekambi, notamment la tête de Turc de Lyon, que plus personne ne peut se le voir. Il n'empêche qu'il marquait quand même quelques buts. Donc là, aujourd'hui, il n'y a plus qu'Alexandre Lacazette pour marquer des buts. On va lui mettre peut-être potentiellement Wilson Isidore, qui était visé aussi par Lorient. Ça dit quand même quelque chose. Wilson Isidore, qui il y a un an était remplaçant du remplaçant à l'AS Monaco, qui a marqué deux buts cette saison en championnat de Russie. En fait, ce que j'essaye de vous montrer, c'est qu'on a une érosion spectaculaire des ambitions lyonnaises. Moi, ce mercato, pour moi, il est vraiment marquant. Je rappelle quand même qu'en 2017, qui débarquait à l'OL, c'était Memphis Depay. C'était Memphis Depay. Voilà. Alors, c'était un Memphis Depay en échec sportif, mais c'était un joueur du Manchester United. Qui débarquait à l'hiver 2020, c'était Kadewere, c'était Bruno Guimaraes, c'était Karl Toko Ekambi, c'était aussi un retour de tout ça. Mais voilà, au moins, il y avait quelque chose, il y avait une ambition, il y avait, voilà, il y avait un souffle. Là, j'ai l'impression qu'avec le rachat, que le trio Aulas, Ponceau, Chéroux sent un peu que le vent tourne et que forcément, ils vont être de plus en plus mis de côté. Et que là, moi, j'ai l'impression qu'on est dans un gros mercato de fin de cycle. Et ça dit quand même quelque chose de l'érosion du pouvoir d'attraction et de l'érosion des finances de l'Olympique Lyonnais.
L'érosion du pouvoir d'achat. Sujet.
C'est vrai, sujet, là on l'a en pleine tronche.
Non, mais tu as tout très bien résumé. Oui, il y a quelque chose qui tourne pas rond. On voit que les supporters se demandent à quel saint se vouer. Mais en fait, j'ai l'impression que l'Olympique Lyonnais a abandonné au fond cette saison. Voilà. Oui. Ça s'appelle un grand reset qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre les joueurs pour repartir de zéro. À part peut-être Jean-Michel Aulas, ou qui va feindre de le croire. Plus personne qui croit à une qualification en Ligue des Champions. La Coupe d'Europe, c'est compliqué aussi. Donc, en gros, l'idée, je pense, que c'est de repartir sur des bases. Et dans les joueurs qui partent, comme tu as dit, c'est des joueurs malheureux. Il n'y a pas de jeunes du...
Oui, mais c'est des joueurs qui... Il y en a quand même qui jouent et qui sont importants.
Oui, mais je pense que, voilà, simplement, ils repartent sur quelque chose d'autre. C'est pas enfin, d'ailleurs, ça ne sera sûrement pas anodin pour... Tu as dit Jean-Michel Aulas et compagnie, tout l'état-major de l'OL. C'est pas anodin pour eux aussi parce que... Je pense qu'ils sont dans une situation un peu malaisée parce que quand un nouveau patron arrive, Textor, on fait croire qu'il garde les hommes. Mais ça, ça dure un temps. Parce qu'il paye. Maintenant, c'est lui le payeur. Donc, il va mettre ce qu'il a envie. Donc, je pense que là, ça s'agite un peu. Et Scola, je crois qu'Ola, c'était censé être garanti 3 ans à la tête du club. On en reparlera. Parce que, c'est, au fond, c'est pas contre Ola, c'est pas contre Textor. Mais c'est un classique, tout simplement. C'est quelqu'un rachète. Et ben il change tout. Et j'ai l'impression que là, ça commence justement par les joueurs. On repart de zéro. De toute manière, ça sert à rien. C'est un effectif aussi qui est numériquement surdimensionné pour ce que joue l'OL. Donc en effet, il n'y a pas de temps de jeu pour tout le monde. C'est vrai que quand on voit des fois la liste des milieux de terrain, on se dit mais comment il va réussir à faire jouer tout ça. Donc je pense que là, ils sont en train tout simplement de mettre un coup de balai. Ils vont bricoler jusqu'à la fin de la saison, essayer de faire du mieux possible et de repartir entre guillemets à zéro l'année prochaine. Alors ils ne le diront jamais, mais en tout cas, ça ressemble à ça. Hormis, comme tu dis, là il reste 4 jours, fin de mercato. Mais enfin bon, les noms pour l'instant, Isidore et Skiri, je suis pas sûr que ça suffit. Surtout la saignée. Alors encore une fois, c'est une saignée aussi qui est numérique parce que quantitative, parce qu'il y a beaucoup trop, on va dire. Mais bon, je pense vraiment que ça ressemble, comme tu l'as dit, en fin de cycle et presque une fin de saison. C'est-à-dire que voilà, on va terminer du mieux possible et pour être prêt l'année prochaine à relancer un cycle, ce qui est pas illogique puisque ce sera la première saison complète. Ouais. Sous l'ère Textor, donc ça me paraît pas illogique. C'est triste, mais c'est pas illogique.
Ouais, c'est une sorte de feuille blanche, quoi. Mais même tu pourrais être un peu plus ambitieux quand même. Quand tu vois, enfin, je sais pas, moi, je vois Nice, je vois Nantes, je vois Marseille, je vois. Sans même parler de Paris, on est sur des équipes qui sont moins en échec sportif et qui ont plus d'ambition dans ce mercato-là. Mais même Lorient, enfin, je veux dire. Alors oui, ils ont perdu Ouattara, mais il y a quand même des idées qui circulent. Je pense qu'aussi à Lyon. On manque quand même d'une direction et d'idées. Il manque, alors j'allais dire presque, pas un Longoria, mais quelqu'un comme ça qui a une vision, qui dit, bon, bah, on va acheter des joueurs. Il y a différentes logiques. Il y a la logique sportive, il y a la logique financière. Mais au moins, il y a une logique, il y a quelque chose, il y a un cap. Voilà, Longoria, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il donne à Tudor une équipe qui lui ressemble et on y va. La Blanc est arrivée il y a quelques mois. On pourrait se dire à Lyon, bon, bah, le Blanc est là, il a une certaine philosophie de jeu. Et ben, on va lui donner les armes, on va lui donner les joueurs qui sont capables de mettre en place ce que le coach veut. De mettre en place, voilà, quelque chose qui ressemble à un plan. Juste ça. Et ce mercato nous montre quand même que. Ouais, bah non.
Après, le constat est peut-être fait par Blanc que ça ne marchera pas. Cet effectif ne marche avec. Personne ces dernières années. Et le problème, c'est. Alors, en effet, le mercato d'hiver, t'as raison, on peut faire des coups, mais on peut faire que des coups. Et s'il veut reconstruire, ça passe par l'été. Et aussi, je pense qu'il y a une espèce de prévision, c'est-à-dire qu'il va peut-être aussi libérer des salaires et des choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où ils ne vont pas jouer de Coupe d'Europe, à un moment, bah, il faut se mettre aussi en accord avec le budget. Et je pense que là, on est. Encore une fois, moi, ça ressemble à un dégraissage et dire, bon, bah, il reste 6 mois, on va finir du mieux possible, et puis on partira de zéro l'été prochain.
Mais là, on est sur quelque chose, moi, qui me rappelle un petit peu quand Lyon devait financer son grand stade. C'est-à-dire que là, on va se raccrocher à Cherki et Malogusto, donc qui sont les deux seuls qui n'ont pas de bon de sortie, parce que aussi on veut contenter les supporters et faire quelque chose de made in Noël. On veut revenir aux bonnes vieilles recettes. Et à l'époque, c'était ça. C'est-à-dire que Lyon, on reconstruisait avec les jeunes. Et c'est pour ça aussi que Cacré a prolongé, que Cherki a prolongé l'été dernier, qu'il y avait eu, souvenez-vous, cette conférence de presse où Jean-Michel Aulas disait ouais, on va retrouver cet ADN-là, le retour de Tolisso et de Lacazette rentrer là-dedans. Souvenez-vous quand même qu'à cette époque-là, alors ils sont tombés sur une génération exceptionnelle, parce qu'on parle de Lacazette, Tolisso, Umtiti, mais derrière il y avait aussi des Ferry, des Lopez, des Guezal, des Gonalons. On avait quasiment un 11 de joueurs formés à Tolavologe à l'époque. Il faut tomber sur une génération comme ça pour que ça marche. Voilà. Alors,
c'est un pari.
C'est un pari. C'est un pari. Mais et puis, de toute façon, à mon avis, Malogusto, il partira cet été. Et Cherki peut-être bien aussi. Donc,
quand tu vois les profils de joueurs qui partent à l'hiver, c'est justement tout sauf ces jeunes. Malogusto, c'est le bon exemple. On pourrait dire ah bah, c'est une bonne affaire financière, sauf qu'il le garde. Alors, finalement, c'est sûr. Pas sûrement, c'est celui sur lequel il pourrait se faire le plus d'argent, même si Chelsea ne l'a proposé que 20 millions. Donc, en faisant monter bien les enchères. Ça peut coûter cher pour les promesses, etc. Donc je pense que oui, le côté, c'est on garde nos joueurs du cru, on essaie de faire grandir l'équipe, on repart de zéro ou presque, mais l'été prochain. Donc j'ai peur que les 6 prochains mois soient en effet assez longs parce que l'OL n'a plus grand-chose à jouer en championnat, qu'on le veuille ou non. C'est trop loin pour la Ligue des Champions.
Non, mais c'est ça, tu l'as dit, c'est un mercato, un grand reset. Allez, on va terminer avec un homme qui voit les mercatos lui passer sous le nez, mais qui reste inactif pour le moment. Zinedine Zidane se voyait sélectionneur de l'équipe de France, mais Didier Deschamps a prolongé jusqu'en 2026 son bail sur le banc des Bleus. Du coup, Zizou, il ne va pas rester au chômage indéfiniment. Voilà, il a tout gagné avec le Real Madrid. Il a une cote monstrueuse, évidemment. Et donc, il se verrait bien revenir sur le banc d'un grand club. The Athletic, jeudi, donc un site anglais réputé pour la fiabilité de ses informations, nous annonce que, voilà, selon un proche de Zinedine Zidane, il réfléchirait à... Bah, il y a trois clubs qui auraient en tout cas ses faveurs. Le Real Madrid, où il pourrait revenir une troisième fois, la Juventus Turin et, dernier club, l'Olympique de Marseille. Maxime, j'aimerais t'entendre là-dessus. Très franchement, Zizou et l'OM, est-ce que c'est bien sérieux ?
Bah, déjà, alors, The Athletic est une publication très sérieuse, comme tu l'as dit, d'excellents journalistes, qui appartient au New York Times d'ailleurs, il faut le dire. En revanche, bon, j'ai l'impression qu'ils sont dans l'extrapolation, peut-être une petite méconnaissance du marché français et même des relations de Zidane avec le. Parce qu'en gros, comme tu as dit, c'est. Le cercle pro, enfin une connaissance du cercle proche de Zidane qui dit que moi j'ai pensé, alors ça remonte à loin, qu'à la fin de sa carrière Zidane viendrait à l'OM un jour en tant que joueur, pour boucler la boucle. Et je me souviens, il n'y a pas longtemps, je regardais un vieux France Football de 2000 où Zidane parlait de l'OM, et à l'époque l'OM avait les moyens, on n'était pas encore dans une époque où on ne pouvait pas s'offrir Zidane en France, et que Robert Louis Dreyfus serait bien aimé, mais Zidane ne voulait pas venir à Marseille pour des raisons personnelles et familiales. En gros, c'était de dire il savait que sa vie était impossible parce que Zidane, imaginez l'icône, c'est dans la rue, c'est Jésus-Christ qui est là tout le temps là. Donc, il ne voulait pas de ça, au fond. En entraîneur, je ne pense pas que ce soit ça le problème principal, même si ça rentrerait en ligne de compte, je pense. Mais je pense que, souvenez-vous, début de sa carrière, alors ce n'est pas exactement le même contexte, et ce n'est pas forcément les mêmes liens sentimentaux, quoique, il a refusé Bordeaux. Je ne sais pas si Zidane est un entraîneur pour des clubs qui n'ont pas des immenses joueurs. Voilà. Alors, vous allez me dire, on l'a vu qu'au Real Madrid, donc c'est compliqué, mais n'empêche que ça a bien marché. Et peut-être qu'il n'est pas fait. Moi, j'ai un doute sur la capacité d'être très très bon avec des joueurs moins forts que ce qu'il avait, parce que c'est un formidable meneur d'hommes. Il est pragmatique à sa manière. Je ne sais pas si ça marcherait comme ça. Donc, je pense pour lui, le risque serait trop grand. Et c'est vrai que des trois options dont on parle, Real Madrid, Juventus Turin, bah oui, c'est évidemment la moins crédible. Même en enlevant le côté sentimental sur le papier, ça n'a pas tellement de sens.
Ça me rappelle un peu quand on parlait de Didier Drogba d'un retour à l'OM, quand l'OM était dixième et que lui, il cassait tout avec Chelsea. Au moment, il y a un truc qui ne colle pas. C'est-à-dire que Marseille doit d'abord retrouver des ambitions européennes. Et quand je parle d'ambition européenne, ce n'est pas des ambitions de qualification. C'est des ambitions de quart, demi, finale de Ligue des Champions. Et pour le moment, avec le propriétaire que Marseille a, c'est impossible. Il ne nous a pas montré qu'il pouvait investir à hauteur d'un finaliste, d'un demi-finaliste ou même d'un quart de finaliste de Ligue des Champions. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Zidane ne va pas baisser de standing pour l'OM, même s'il adore cette ville. Et en plus, effectivement, tu as ce paramètre qui est essentiel pour moi, du calme, de la sérénité, d'un contexte où il a besoin de travailler dans la sérénité. Après, sur les trois options... Moi, il y en a une qui m'intéresse plus que les deux autres. Un troisième retour au Real, tu me diras, ça a marché la première, ça a marché la deuxième fois. Mais est-ce qu'il a à prendre le risque d'abîmer ce qu'il a laissé à Madrid ? Moi, c'est vraiment un truc qui m'interroge. En revanche, la Juventus Turin. Alors, vous allez me dire, ouais, la Juve, ils ont pris combien ? 15 points de pénalité ? 12
ouais,
points ?
15 points.
15 points de pénalité. Là, ils sont dans une panade pas possible. Il y a des procès, etc. Ok. Après, ça reste un club légendaire. C'est un club qui a souvent eu des affaires comme ça à gérer, qui s'en est tout le temps relevé. C'est un club qui appartient à une grande famille, à un grand investisseur qui aura toujours de l'argent. C'est un club qui brille. Et puis, il y a une relation intime entre Zidane et ce club-là. Donc, et en plus, revenir dans cette situation-là, c'est-à-dire... Un club en échec total, en déperdition. Ils gagnent plus Scudetto, mais là, on ne sait même pas s'ils vont se qualifier pour l'Europe. Il arrive dans une forme de sauveur, un peu, on reconstruit, etc. Qu'est-ce qu'il a à perdre, là, pour le coup ? Franchement, dans ce contexte-là, moi, c'est quelque chose qui m'irait. Et s'il doit retrouver très vite un banc, déjà à Marseille, il y a Tudor, il y a Longoria, c'est un ticket qui marche bien. Alors, au Real, ça peut très vite sauter, parce qu'une défaite en huitième de finale, Ancelotti qu'il a, il peut vite dégager. Mais... celui qui est le plus proche de la sortie parmi les trois, ça reste quand même Allegri. Donc, voilà, moi, c'est un projet, en tout cas, la Juve, qui, sur ces trois-là, me semble aujourd'hui le plus possible.
Moi, je n'y crois pas trop pour les raisons que j'ai données avant. Alors, ce n'est pas les sentiments, c'est que Je ne sais pas s'il prendra le risque d'être dans un club qui n'est pas dans un assuré d'être top niveau financièrement.
Mais ça peut revenir vite.
Ça peut revenir vite. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je ne parle pas des 15 points, même sans les 15 points. Je pense que c'est un club qui... Je pense qu'il a besoin de garanties, et ça passe par des garanties financières. Je ne suis pas certain qu'il irait... Et je ne sais pas si ça collerait vraiment. Là, c'est vraiment un sentiment, voilà. Je ne sais pas s'il est... Ah, il a été très bon joueur.
Mais tu le verrais aller où, là ? S'il doit partir cet été, il va où, Zidane ?
Paris Saint-Germain. Non, mais bah, ça reviendra s'il est sur le marché. Non, mais moi, je l'ai déjà dit, mais c'est pas... Encore une fois, je sais que ce n'est pas réaliste, mais j'adorerais le voir.
Tu vas dire Bayern, je suis sûr.
Non, la sélection brésilienne, je fais toujours ça.
Oui, oui.
Je trouve ça...
A priori, c'est foutu, ça.
Oui, mais c'est juste le côté iconique de me dire, purée, Zidane, le Brésil, ils prennent le deuxième sélectionneur étranger de leur histoire, le premier, il n'a fait qu'un match, et dire c'est Zidane, enfin, il y a un truc délirant. Alors, je sais que, oui, il est français, etc., et que même si Noël Le Graët, on n'a rien à secouer, je trouve qu'il y aurait... Tant qu'il n'y a pas l'équipe de France, bah, aller au Brésil, alors évidemment, ce serait le crève-cœur absolu de le voir jouer contre l'équipe de France, de le voir potentiellement gagner contre l'équipe de France, mais j'aime bien, enfin c'est l'idée, là c'est l'idée romantique, idée réaliste. En fait, je trouve qu'il a un profil tellement particulier d'entraîneur que j'ai du mal à le voir déjà ailleurs qu'au Real ou d'une sélection. L'équipe, de, je ne sais pas, alors à ceux qui disent que l'équipe de France aurait mieux joué. Donc développer un football plus offensif, plus dans la possession, parce que c'est Zidane, ça, bon, personne ne le sait et ça n'a pas de sens. Voilà.
Et puis le Real, c'était pas non plus.
Oui,
c'était pas le Barça pour de là.
On s'est jamais relevé la nuit. C'est une équipe hyper pragmatique et des joueurs talentueux et un entraîneur qui savait la mettre, tirer le meilleur d'elle. Mais je pense qu'il est plus fait aujourd'hui pour une sélection. C'est ce qu'il attendait. Mais si je devais dans les trois que tu as dit, je me demande si ce serait pas, j'en mettrais pas un quatrième. Et finalement, la tentation. Paris Saint-Germain, avec tous les guillemets, toutes les parenthèses, tout ce que vous voulez, parce qu'évidemment, il est marseillais, ce serait particulier. En fait, j'aimerais bien un jour l'entendre dire très clairement...
Et il ne peut pas.
Je ne veux pas aller au Paris Saint-Germain. Il ne peut pas. Bah, oui, mais s'il n'en a vraiment pas envie, qu'il est marseillais...
Tu
ne
peux pas te
fermer
de porte, oui, mais c'est impossible, Maxime.
Bah oui, mais... Si, au fond, s'il l'avait voulu...
Est-ce que toi, aujourd'hui, tu pourrais dire « je ne serai jamais l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Maxime »
Ah bah moi, je peux dire très clairement « je ne serai jamais l'entraîneur du Paris Saint-Germain ».
Ah, tu te fermes trop de portes, là, Maxime, on sait jamais.
J'en ai pas les qualités.
Quand je t'entends là tous les vendredis, je me dis.
Je peux déjà te dire trois choses. Je ne serai pas sélectionneur de l'équipe de France. Je ne serai pas entraîneur du Paris Saint-Germain. Je ne gagnerai jamais le 100 mètres olympique. Et pas plus que le 100 mètres nage libre olympique non plus.
Je suis dégoûté.
Voilà.
Je suis dégoûté parce que t'as quel âge ? T'es à l'orée. Allez, à l'orée. T'es à l'aube
à
de l'aube. Tes 50 ans, Maxime ?
Ouais, quand même, à la belle aube quand même. Attends,
ouais,
il y a du temps.
Ouais, ouais, ouais. Bon, dis donc, il est 3h du matin, on va dire.
Je suis plus près des 40. Quoi.
Et tu te fermes tellement de portes.
J'y crois pas.
Mais moi je crois en toi. Moi je crois en toi. On va se faire un petit entraînement avant Paris 2024, Maxime. On va faire de toi une machine de guerre, le Atto Boldon de Paris 2024, Maxime. Et je te mets sur le podium.
Allez, peut-être le marathon, à la rigueur, qui me paraît dans mes cordes.
Ouais, alors j'ai plus confiance en toi sur un 100 mètres que sur un 42 km. Mais.
Mais non,
Après, l'explosivité n'est pas ton fort.
Alors, j'avais un bon démarrage jeune.
Ouais, mais t'étais pas.
Grâce à mon fessier.
Ouais.
Qui me permettait de me propulser plutôt pas mal.
Ouais, mais t'es pas non plus une masse de muscles, si on est tout à fait honnête.
Ouais, j'ai beaucoup perdu.
De muscles ?
J'ai beaucoup fondu.
Alors en muscles.
Ah ouais.
Seulement. On est d'accord. Bon, on a fait le tour, je crois, Maxime, de cette émission. On va remercier Simon quand on parle de montagne de muscles. Je crois qu'on peut.
Ah voilà. C'est pour ça qu'on dit, on essaye d'être assez très mesuré dans nos propos quand Simon présente l'émission. Quand c'est Adrien. Adrien dit la ficelle.
Ouais,
clac, on le brise en deux, Adrien.
Bah, Adrien, on le démonte.
Mais bon, là, si on veut briser
non,
Simon,
là, même à deux, je pense que. Ouais, non, même à deux, je pense que. Je pense que j'appelle un ami. Donc, merci Simon pour la réalisation. Merci Quentin pour les visuels.
Quentin Guichard.
Merci à ce nouveau studio qu'on a entraîné. Et finalement, on n'est pas si mal sur les genoux de Maxime Dupuis. Franchement, on n'est pas si mal. Je vous conseille. Et puis, bah, merci à tous de nous avoir écoutés.
Salut.
Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.